Bon, les amis,
ça va gagner.
On a reçu depuis le début de la saison pas mal de questions, donc j'aimerais vous les soumettre, et comme ça, vous pouvez répondre. En plus, ça tombe bien. On a Médéric de Callaway, on a Romain de Garmin, on a notre prof de golf, on a notre éditorialiste, et il y en a un petit peu pour tout le monde. J'en ai sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, j'ai Bastien qui nous dit que son index, qu'il joue 11, mais qu'il a beaucoup de mal à descendre à un chiffre. Quel entraînement je peux mettre en place pour y parvenir? Quelle serait la clé? Je me tourne vers toi, évidemment, Ramucho, c'est toi le prof de golf. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour tous les joueurs comme ça qui ont du mal, qui n'arrivent pas à passer ce palier?
C'est avoir un entraînement avec à chaque fois du challenge, que ce soit sur des coups autour du green, que ce soit sur le green, se mettre des challenges régulièrement. Ce qu'ils rencontrent en situation de jeu, en situation de compétition, voilà, ça n'est pas uniquement taper des balles pour mécaniser son mouvement. Là, s'il veut taper des balles, eh bien, il va se focaliser sur une chose, sur le centrage de sa balle et la création de trajectoire. Donc, centrage de balle, création de trajectoire, autour du green, sur le green, s'imposer des challenges pour que lorsqu'il a une approche putt à produire pour sauver son score, qu'il ne soit pas démuni.
Ok, c'est bon, tu voulais réagir.
Je suis exactement
aussi
dans la même situation que Bastien.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et déjà, alors, c'est de la palissade, mais l'entraînement, voilà, faut avoir le temps de s'entraîner. Et très souvent, c'est vrai, quand on va jouer, on a envie d'aller très vite sur le parcours. Mais bon, à ce handicap-là, j'imagine qu'il a des mises en jeu correctes, qu'il s'est tapé dans la balle. Donc, moi, j'ai envie de lui conseiller les axes de progression que je me suis fixés. Régulation, scrambling, et puis on en revient toujours là à ce jeu, le putting. Quoi. Voilà, quand on se met à rentrer des putts, à ce jeu, on gagne des coups. Mais régulation, voilà, c'est fondamental. Et en cas d'absence de régulation, le scrambling, on le voit chaque week-end sur les tournois, parce qu'on parle souvent du chipping, des coups roulés autour des greens, mais en fait, ces coups-là, on les joue quand on n'est pas en régulation, et c'est nécessaire, voire vital, si on veut garder son score et à terme le faire baisser.
Moi, mais Eric, tu voulais question, pour rebondir sur ça, parce qu'on parle de l'entraînement souvent, mais je trouve qu'on ne valorise pas assez le fait que c'est bien de s'entraîner, mais pour bien s'entraîner, je pense qu'il faut aussi aller voir un pro. Et c'est là, j'ai une question pour Ramucho, parce que forcément, vu que c'est ton domaine, pour ce passage de, entre guillemets, deux chiffres à un chiffre, si demain, ça devait être mon cas, est-ce que tu as une pas une cadence, mais un programme, une récurrence à avoir sur potentiellement un nombre de leçons à prendre avec son pro, combien de temps laisser entre deux séances, est-ce que ça, c'est des choses, alors j'imagine que ça dépend de chaque golfeur, mais souvent on l'oublie, et on va s'entraîner, mais si on n'a pas les bases et qu'on ne fait pas un check-up avant ça et de se dire ok, je vais travailler le driving parce que je drive mal, alors qu'au final c'est pas si mauvais et qu'il y a du putting qui est peut-être l'axe d'évolution plus importante. Voilà.
En fait, lorsque on a des joueurs qui veulent vraiment progresser et descendre en index, en fait, on est très demandeur, je suis très demandeur de ce qui se passe sur le parcours et de noter exactement où sont les points forts, donc les greens à régulation, les fairways pris, enfin des choses basiques, hein, combien d'approche putt. Et là, on a un état des lieux en situation de jeu, en situation réelle, et à partir de ce retour concret, on travaille, on présente un axe de travail par rapport à ces points faibles qui peuvent être évidemment montés en gamme. Voilà, donc c'est vraiment des retours de la part du joueur par rapport à ce qui se passe sur le parcours. Et à partir de là, on travaille sur le practice, à améliorer tel et tel secteur de jeu. Et je suis aussi très, très partisan du fait d'accompagner un joueur, ne serait-ce que 9 trous. Et on est surpris du comportement du joueur lorsqu'il est sur le parcours, qui est assez différent parfois de la sérénité qui part au practice.
Ok, donc emmener son pro sur le parcours sans pour hésitation. Lui montrer vraiment ses failles et ce qu'il faut absolument travailler. Ça, c'est un super conseil. Antoine qui nous demande, c'est un petit jugement, mais j'ai sélectionné ça parce que je pense qu'il a un peu raison de nous le dire. Antoine nous dit, je vous trouve parfois un peu sévère avec Rory McIlroy et beaucoup moins avec d'autres joueurs européens qui n'ont pas son palmarès. J'aimerais savoir pourquoi.
Moi, je veux bien commencer, moi.
Vas-y.
Dommage que Fabien soit pas là.
On va l'appeler Fabien, tiens.
Et
vas-y.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rory, moi, c'est un joueur que j'adore et que j'ai envie qu'il gagne tout. Pardon. J'ai envie de le voir tout gagner et du coup, dès qu'il met à côté, forcément, ça me frustre. Et c'est pour ça que je suis un peu plus exigeant avec lui, moi, à titre personnel.
Ok, non mais très bien, c'est les rançons de la gloire, ouais, d'être une star et une figure. Ouais. C'est le statut qui veut ça, c'est ça ?
Ouais, exactement.
C'est pour ça qu'on est sévère, les copains ?
On est sévère parce que aussi sur le parcours, il est très humain, donc il a des comportements et il rate entre guillemets des coups qu'on ne pensait pas lui prêter à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour ça
qu'on réussit des coups absolument fantastiques.
On tombe de la table, et on se dit mais Rory il est comme nous finalement, c'est le côté positif. Mais il n'a pas le droit non plus de rater ce putt, de rater ce wedge, etc. Comme il a pu le faire des années. Voilà, c'est parce qu'il est simplement hyper humain que effectivement parfois on lui tombe dessus. Oui.
Et au golf, faut rappeler quand même qu'on perd quasiment toutes les semaines et une fois de temps en temps on gagne.
C'est comme le tennis. Ouais.
Voilà, pour perdre, il faut être en situation de gagner. Rory, on le voit à la télé dès qu'il joue en tournoi, t'es quasiment sûr de le voir à la télé le dimanche, ce qui n'est pas le cas des autres joueurs. Et t'es obligé de faire le comparatif avec un Scotty Scheffler, je sais plus après quel tournoi. On lui a dit ah, ça va pas dans votre jeu là en ce moment, c'est compliqué. Hein. Il a dit mais frérot, je suis 25e. Mon 22e est en train de m'expliquer que mon jeu se délite, que ça va pas. Non, j'ai connu des. Enfin, pour moi, la crise, okay. c'est pas ça.
Donc, on est critique avec ceux qui performent le mieux et avec notamment les deux numéro 1, les deux meilleurs joueurs du monde. J'ai bien compris. Isabelle nous demande, ça va être pour Médéric, la patate chaude. Quels sont les meilleurs wedges du marché? C'est sa question. Et elle nous dit qu'en fait, elle joue habituellement. J'ai un 52 et un 56 dans mon sac. Est-ce que je dois changer de loft ou vu que je me suis habitué avec cela, je dois rester sur les même. Donc double question.
Alors forcément, la première, je vais être obligé de dire la vérité, c'est forcément des wedges Callaway. par contre, pour savoir si effectivement 52-56 sont les bons wedges, le seul moyen, et là je pourrais rien faire, mais le seul moyen c'est d'aller les tester. Les tester sur les journées fitting, où là on a tout ce qu'il faut, quelle que soit la région où on joue au golf, où là on va pouvoir tester différents shafts, différentes longueurs, différents lies. Même maintenant sur les wedges, on peut jouer sur le lie et sur le loft, donc on peut le modifier en direct. Le choix de la semelle va être extrêmement important. Après, souvent, en fonction de la composition de la série, donc si on s'arrête au pitch qui en général fait 43-44 degrés ou à l'approche wedge qui va en faire 48, derrière on va venir compléter avec les approches wedge et les sand wedge ou gap wedge et sand wedge. Effectivement, si elle joue depuis 15 ans avec un 52-56,
faut pas bouger.
C'est pas qu'il faut pas bouger, mais c'est pas si simple. C'est pas je vais changer mes loges, je vais lever la balle un peu plus au 58 par exemple. Je serais presque plus d'avis en tout cas à essayer de rajouter un club s'il y a de la place, et dans ce cas-là peut-être de mettre un 60 en plus qui apporterait ce qui pourrait ça pourrait lui permettre de combler le trou des sorties de bunker compliquées ou des lob shots ou des roughs très denses, plutôt que de se dire je vais prendre un 58, ça va faire le travail entre le 56 et le 60.
Ok, moi j'ajoute une question, de wedge, ça suffit dans le sac?
Ça dépend. Moi j'enlèverais des clubs là-haut, là, au lieu d'avoir 3-4 bois, 2-3 hybrides, je mettrais plus de wedge, parce qu'au final, c'est... En fait, souvent, on a l'impression qu'entre le 56 et parfois entre l'approche wedge en 48 et le 56, ouais. C'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est « Ah bah j'en ai pas besoin ouais. ». Ou entre le pitch et le 56, « Ah bah j'ai un pitch et un sand wedge ».
6-8 degrés, c'est énorme.
12, 13, 14 degrés d'écart, c'est énorme. C'est comme si on mettait rien entre le fer 5 et le fer 8. Déjà que de taper un club à la même distance tout le temps, c'est juste pas possible. Quel que soit le niveau, c'est très compliqué. Si en plus de ça, on se tire une balle dans le pied en s'enlevant des opportunités ou en tout cas des choix dans le sac, je trouve ça dommage. Donc j'irais dans un premier temps peut-être démarrer au 52. Si elle aime bien le 52, elle a sa distance. Et derrière, voir si on fait 56-60 ou que le 58, si elle s'est habituée, si elle s'habitue facilement au changement d'angle de décollage et à la distance qu'elle va pouvoir faire avec le 58 par rapport au 56.
Ok, j'ai bien compris sur la notion de Callaway aussi pour aller chercher ses wedges. Oui,
oui, pourquoi, quand tu ce que dis. Mais Derek, c'est vrai qu'avoir dans son sac deux minimum, je dirais même trois wedges, gap, etc., on a de suite une création de trajectoire. Et autour d'un green, on est moins perdu. Il suffit de prendre si on a une butte ou si on a un drapeau au fond. Voilà, j'ai tel club pour. Alors que ce que je vois souvent en course, c'est un joueur, une joueuse qui a un club à tout faire, mais qui le ferme, qui l'ouvre, qui le torture, qui le tord, qui le déforme. Et du coup, il y a forcément des conséquences de résultats. Alors qu'avoir trois clubs, trois wedges, 300 wedges qui me permettent d'avoir une trajectoire et d'être paré quelle que soit la situation, c'est quand même très utile. Oui.
Et je rebondis sur ça. Donc, on parlait juste avant du fait qu'on était très exigeant avec Rory, mais souvent, on est très exigeant avec nous-mêmes. C'est quand on loupe un coup, on pense que ça ne vient que de la technique. Et il faut savoir qu'un club pas adapté, par exemple un bounce ou une semelle très arrondie sur un links, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, si je pousse un peu plus loin, c'est deux wedges et parfois même, on peut imaginer avoir un wedge supplémentaire qu'on n'utilise pas forcément sur tous les parcours.
Ok.
Parcours avec un sol tendre et de l'autre côté un sol très sec. Voilà,
c'est... Les copains, très rapidement, parce que je vois Romain et j'ai une question pour toi. Il y a Malik, en tout cas, j'imagine qu'elle est pour toi. Malik, je vois beaucoup de joueurs avec des montres et des télémètres. Les deux sont-ils vraiment utiles et qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter en premier?
Moi, la première question que je vais poser, c'est... Enfin, je vais essayer d'apprendre à connaître la personnalité. Ça va dépendre de son niveau de jeu et de ses attentes. En général, je caricature un peu les choses, mais la montre, c'est un outil qui est vraiment très accessible, qui est très intuitif et qui va convenir à tous les types de golfeurs, que tu sois du débutant à bon joueur. Et après, si tu pars sur des lunettes, en général, ça va plus correspondre à des gens qui ont un niveau de jeu un peu plus précis, un peu plus important. Et donc là, tu vas te... Voilà, les joueurs à un chiffre, en général, ils ont besoin d'être un peu plus précis au centre. Mètres près, donc là tu pars sur du télémètre. Voilà,
ok.
Donc,
et là, vous avez des bons trucs chez Garmin
et chez Garmin. Voilà, on a tout, mais l'avantage qu'on a chez Garmin, c'est qu'on a tout un écosystème. Donc on essaie d'accompagner un peu tous les joueurs, tous les types de joueurs. D'ailleurs, on se focus pas forcément que sur les bons joueurs, c'est parfois quelque chose qu'on peut imaginer, mais c'est pas vrai. Donc il y a des montres qui existent, donc tous les niveaux. Ensuite, on a les télémètres pour les gens qui veulent être un peu plus précis, d'autant plus qu'on ajoute maintenant de la cartographie en 2D à l'intérieur, ce qui permet de prévoir aussi tes repérages de parcours, avoir les obstacles directement dans la visée. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Puis après, on a tout ce qui est radar aussi, qui permet justement de faire tes wedging, de faire toutes tes pyramides, tout ça. C'est des outils qui sont très appréciés des joueurs un peu plus pros, voilà, parce que c'est la routine, c'est comme ça, c'est des outils qui sont bien appréciés. Et puis ceux qui n'aiment pas porter des montres, mais qui ont aussi envie d'avoir une cartographie à portée de main et quelque chose de visible, ils vont plus privilégier des GPS portables de ce type-là. Et après, ceux qui veulent jouer toute l'année, il y a des radars et des simulateurs que tu peux intégrer chez toi ou emmener avec toi au practice ou utiliser aussi avec des pros, parce que c'est des choses aussi qu'on peut combiner et c'est assez intéressant. Donc voilà, on a vraiment vraiment tout un écosystème autour de ça.
Bon, bah c'est parfait, je vous invite évidemment à aller regarder les copains et surtout j'ai pas mal de questions, donc vous nous posez des questions sur Instagram et comme ça à chaque fin de podcast je ferai une petite séance et une petite tournée des questions, des principales questions des auditeurs. Merci à tous de nous suivre, on vous embrasse les amis. On va se retrouver, j'espère que vous êtes là, lundi 18 mai pour débriefer le deuxième majeur de la saison, l'USPGA. Ok, nous on sera là en tout cas. D'ici là, bon golf à tous, on vous embrasse.
Merci.
Et bye merci.
Bye. Salut.
Les copains, salut.
Merci.
Le Practice RMC.